Chapitre 6, dans lequel l'histoire est obligée de rétrograder. Il est presque impossible aux meilleurs parents d'observer une exacte impartialité dans l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, quand même aucun mérite supérieur ne ferait pencher leur affection en faveur de l'un d'eux. Mais sûrement, il est bien difficile de blâmer un père quand c'est cette supériorité qui détermine sa préférence. Or, je regarde tous les personnages de cette histoire comme mes enfants. Et je suis obligé d'avouer que j'ai cette disposition à la partialité pour Sophie. Mais j'espère que la supériorité de son mérite me justifiera également aux yeux du lecteur. Cette tendresse extraordinaire que j'ai pour mon héroïne ne me permet jamais de la quitter un peu longtemps sans la plus grande peine. Je retournerai donc sur le champ avec la plus vive impatience, m'informer de ce qui est arrivé à cette aimable personne depuis son départ de chez son père, si je n'étais obligé de faire auparavant une petite visite à M. Blifil. M. Weston, dans les premiers moments de trouble où l'avaient jeté les nouvelles soudaines qu'il venait de recevoir de sa fille, et dans la précipitation qu'il avait mise à courir après elle, n'avait pas eu une seule fois la pensée d'envoyer instruire Blifil de cette découverte. Cependant, il n'y avait pas longtemps qu'il était en route lorsqu'il se le rappela. Il s'arrêta donc à la première auberge, et dépêcha un courrier à Blifil pour l'informer qu'il avait retrouvé Sophie et lui faire part de la ferme résolution où il était de la lui faire épouser sur le champ s'il voulait le suivre à Londres. Comme l'amour que Blifil avait pour Sophie était de cette nature violente que rien ne pouvait diminuer, sinon la perte de sa fortune ou quelque autre accident aussi grave, son inclination pour ce mariage ne fut point du tout changée par sa fuite, quoiqu'il fût obligé en conscience de penser qu'il en était la cause. Il accepta donc cette proposition de tout son cœur, d'autant plus qu'en épousant cette jeune personne, outre le penchant qu'il avait à l'avarice, il entrevoyait la jouissance d'une autre passion très forte, celle de la haine. Car il était persuadé que le mariage procurait une égale possibilité de satisfaire la haine aussi bien que l'amour. Opinion probablement appuyée sur une longue expérience. À dire vrai, s'il faut en juger par la conduite que les personnes mariées ont les unes envers les autres, nous serons peut-être portés à conclure qu'en mettant tout en communauté excepté leur cœur, le plus grand nombre ne cherche qu'à satisfaire celle de ces deux passions que nous avons nommées la première. Il trouva cependant une difficulté dans son chemin, et elle venait de M. Allworthy. Cet excellent homme ne fut pas plutôt instruit du départ de Sophie, dont on n'avait pu ni lui cacher ni lui dissimuler la cause, que, voyant la forte aversion qu'elle avait pour son neveu, il commença à penser très sérieusement qu'il avait été trompé lorsqu'on l'avait engagé à pousser les choses si loin. Il n'était point de l'opinion de ceux qui regardent comme tout aussi peu important de consulter les inclinations de leurs enfants en matière de mariage que de solliciter l'approbation de leurs gens quand ils veulent faire un voyage, et que la loi ou la seule décence empêche souvent d'employer la force en ces sortes d'occasions. Il regardait au contraire cette institution comme une des plus sacrées, et pensait qu'il fallait user de toutes les précautions possibles pour la conserver sainte et inviolable. Il en concluait très sagement que le plus sûr moyen d'y parvenir était de la fonder sur une affection préalable. Blifil ne tarda pas longtemps à calmer la colère que son oncle ressentait d'avoir été trompé par lui. Il lui protesta et lui jura mille fois qu'il avait été trompé lui-même, ce qui se rapportait parfaitement avec toutes les déclarations de Weston. L'important était d'engager M. Allworthy à consentir qu'il renouvelât la demande qu'il avait faite, et la seule idée de cette difficulté eût suffi pour en détourner un génie moins entreprenant que Blifil. Mais ce jeune homme avait tellement la conscience de ses talents qu'en fait d'adresse et de dissimulation, rien ne lui paraissait difficile à exécuter. Il représenta donc à M. Allworthy la violence de sa passion et l'espoir qu'il avait de vaincre par sa persévérance l'aversion de la jeune personne. Il le pria de permettre que dans une affaire d'où dépendait tout son bonheur futur, il put au moins avoir la liberté d'essayer tous les moyens honnêtes de succès. « Le ciel me préserve, dit-il, de penser jamais à en employer d'autres que ceux de la plus grande douceur. » D'ailleurs, monsieur, ajouta-t-il, s'ils échouent, vous pourrez alors, et il en sera encore temps, me refuser votre consentement. Il insista sur le vif désir, sur le désir ardent que M. Weston avait de conclure ce mariage. Et enfin, il fit un grand usage du nom de Jones, à qui il imputait tout ce qui s'était passé, et auquel, dit-il encore, c'était même un acte de charité d'arracher une jeune personne d'un mérite aussi distingué. Tous ces arguments furent habilement secondés par Thwackum, qui appuya même un peu plus fortement que M. Blifil sur l'autorité des parents. Il attribua à des vues chrétiennes les mesures que M. Blifil voulait prendre, et ajouta, « Quoique ce bon jeune homme ait présenté la charité comme son moindre motif, je suis presque convaincu que c'est sa première et sa principale considération. » Square, s'il eût été présent, aurait probablement chanté sur le même ton, quoique sur une clé différente, et aurait découvert dans ce procédé une grande convenance morale. Mais il était à Bath pour le rétablissement de sa santé. M. Allworthy, quoique avec répugnance, céda enfin au désir de son neveu. Il lui dit qu'il l'accompagnerait à Londres, où il aurait la liberté d'employer tous les moyens honnêtes pour gagner Sophie. « Mais je déclare, ajouta-t-il, que je ne consentirai jamais à ce que la violence soit employée pour forcer ses inclinations, et que vous ne l'épouserez jamais, à moins qu'on ne puisse l'amener librement à y consentir. » Ainsi, par affection pour son neveu, l'esprit supérieur de M. Allworthy se laissa vaincre par celui qui lui était en tout si inférieur. Et c'est ainsi que la prudence de la meilleure des têtes est souvent rendue inutile par la tendresse du meilleur des cœurs. Blifil, après avoir obtenu de son oncle ce consentement inespéré, ne put rester tranquille jusqu'à ce qu'il eût mis son projet à exécution. Et comme aucune affaire pressante n'exigeait la présence de M. Allworthy à la campagne, que d'ailleurs des hommes n'ont pas besoin de beaucoup de préparatifs pour se mettre en route, ils partirent dès le lendemain et arrivèrent à Londres le soir même où M. Jones, comme nous l'avons vu, se divertissait avec Partridge au spectacle. Le lendemain de son arrivée, M. Blifil alla le matin chez M. Weston, par qui il fut reçu de la manière la plus polie et la plus gracieuse, et de qui il reçut toutes les assurances possibles. Plus que possible, peut-être, qu'il serait bientôt aussi heureux qu'il pourrait l'être par la possession de Sophie. M. Weston ne voulut pas le laisser retourner vers son oncle, qu'il ne l'eût mené, presque malgré lui, chez sa sœur. Chapitre 7. Dans lequel M. Weston, accompagné de M. Blifil, fait une visite à sa sœur. Mrs. Weston faisait à sa nièce un sermon sur la prudence et la politique matrimoniale, quand son frère et Blifil entrèrent brusquement, avec un peu moins de cérémonie que n'en prescrit la loi établie pour les visites. Sophie ne vit pas plus tôt Blifil qu'elle devint pâle et perdit presque tout à fait l'usage de toutes ses facultés. Sa tante, au contraire, devint rouge comme du feu, et ayant toutes ses facultés à son commandement, donna carrière à sa langue en ces termes. « Mon frère, je suis étonné de votre conduite. » N'apprendrez-vous jamais les lois du décorum? Regarderez-vous toujours tous les appartements comme le vôtre, ou comme celui d'un de vos fermiers de campagne? Vous croyez-vous en droit de prendre d'assaut les lieux où se retirent les femmes de qualité, et cela sans la moindre décence, sans vous faire annoncer? Que diable me comptez-vous là? De quoi s'agit-il donc aujourd'hui? On croirait que je vous ai surpris, ça... Point de vos brutalités, monsieur. Je vous supplie. Vous avez tellement saisi ma pauvre nièce qu'elle a peine, je le vois, à se soutenir. Allez, ma chère, retirez-vous et tâchez de reprendre vos esprits, car je vois que vous en avez besoin. » À ces mots, Sophie, qui n'avait jamais reçu d'ordre plus agréable, se retira précipitamment. « Certainement, ma sœur, il y a de la folie à vous, à la forcer de se retirer, quand j'ai amené ici M. Blifil pour lui faire sa cour. » Certainement, mon frère, quand vous savez dans quelle situation sont les affaires, il y a plus que de la folie à vous, à... Certainement, j'en demande pardon à M. Blifil, mais il sait parfaitement bien à qui imputer une réception aussi désagréable. Pour ma part, assurément, je serai toujours charmé de voir M. Blifil. » Mais son bon sens l'eût empêché d'entrer si brusquement si vous ne l'y aviez pas forcé. Blifil salua, bégaya, parut interdit. Mais Weston, sans lui donner le temps de composer un discours pour la circonstance, répondit « Bien, bien, je suis à blâmer, si vous voulez. Je le suis toujours, certainement. Mais allons, ou faites rappeler ma fille, ou que M. Blifil aille la trouver. Il est venu pour cela, et il n'y a pas de temps à perdre. » Mon frère, je suis sûr que M. Blifil entend trop bien ses intérêts pour penser à revoir ma nièce ce matin, après ce qui s'est passé. Les femmes sont d'une complexion délicate, et quand nos esprits sont une fois détournés de leur cours ordinaire, on ne le leur fait pas reprendre en un moment. Si vous aviez permis que M. Blifil eût envoyé présenter ses compliments à ma nièce et lui eût fait demander la permission de la voir dans l'après-midi, j'aurais probablement obtenu d'elle qu'elle le reçût. Mais maintenant je désespère de l'amener là. « Je suis très fâché, madame, dit Blifil, que l'extrême bonté de M. Weston pour moi, bonté que je ne puis jamais assez reconnaître, est occasionnée. Et, monsieur, dit Mrs. Weston en l'interrompant, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Nous connaissons tous mon frère assez bien. Je m'embarrasse peu de la manière dont on me connaît, répondit Weston. Mais quand faut-il qu'il revienne pour la voir? Car, considérez, je vous le répète, qu'il est venu pour cela, ainsi qu'Allworthy. Mon frère, quelque espèce de message que M. Blifil croit convenable d'envoyer à ma nièce, il lui sera remis. Et je suppose qu'elle n'a besoin des instructions de personne pour lui faire une réponse convenable. Je suis convaincu qu'elle ne refusera pas de recevoir M. Blifil dans un moment mieux choisi. De par le diable, elle refusera. Ventre bleu, ne savons-nous pas bien? Je ne dis rien, mais il y a des gens plus sages que tout le monde. Si j'avais pu avoir ma volonté à moi, elle ne se serait pas enfuie, comme elle a déjà fait. Et aujourd'hui, je m'attends à toute heure qu'on viendra m'apprendre qu'elle s'est enfuie de nouveau. Car, quelque imbécile que quelques gens me croient, je sais très bien qu'elle déteste. Il ne s'agit pas de cela, mon frère. Je ne veux pas entendre dire du mal de ma nièce, cela rejaillit sur ma famille. Elle en est l'honneur, et elle en sera l'honneur, je vous le promets. Je mettrai toute ma réputation dans le monde en gage de sa conduite. Je serai bien aise, mon frère, de vous voir dans l'après-midi, car j'ai quelque chose de la plus grande importance à vous dire. Quant à présent, M. Blifil et vous, voudrez-vous bien m'excuser, mais je suis pressé de faire ma toilette. Fort bien, mais fixez-lui un moment. Je ne peux fixer un moment. Je vous dis que je vous verrai dans l'après-midi. Que diable voulez-vous que je fasse? S'écria Weston en se tournant vers Blifil. Je ne peux pas plus venir à bout d'elle qu'un basset ne peut venir à bout d'un vieux lièvre. Elle sera peut-être de meilleure humeur dans l'après-midi. Je vois, monsieur, répondit Blifil, que je suis condamné à être malheureux, mais je reconnaîtrai toujours les obligations que je vous ai. Il prit alors cérémonieusement congé de Mrs. Weston, qui ne fut pas moins cérémonieuse de son côté. Et ils se séparèrent. Weston jura entre ses dents que Blifil verrait sa fille dans l'après-midi. Si M. Weston fut peu satisfait de cette entrevue, Blifil le fut encore moins. Quant au premier, il imputait toute la conduite de sa sœur au mécontentement et à la mauvaise humeur que lui avait causé l'omission de toute cérémonie dans la visite qui venait d'avoir lieu. Mais Blifil vit la chose un peu plus loin. Il soupçonnait quelque chose de plus fâcheux, d'après deux ou trois mots qui étaient échappés à la dame, et pour dire la vérité, il soupçonnait juste, comme on le verra, quand nous aurons raconté plusieurs faits qui seront contenus dans le chapitre suivant. Chapitre 8. Projet de Lady Bellaston pour perdre Jones. L'amour avait jeté des racines trop profondes dans le cœur de Lord Fellamar, pour qu'il pût en être arraché par la brutalité de M. Weston. Dans la chaleur du ressentiment, il avait en effet donné au capitaine Eglane la commission que nous avons vue. Mais, en la remplissant, le capitaine avait de beaucoup excédé ses pouvoirs, et elle eût même été complètement révoquée si Milord eût pu rencontrer le capitaine après avoir vu Lady Bellaston. c'est-à-dire le lendemain après-midi du jour où il avait été insulté. Mais le capitaine mit tant de zèle à remplir sa mission qu'ayant, le soir très tard, et après de longues recherches, trouvé le logement de M. Weston, il passa toute la nuit dans une taverne prochaine pour ne pas le manquer le lendemain matin, et manqua par ce moyen de recevoir le compte-rendu que Milord avait envoyé chez lui. Le lendemain du jour où le viol de Sophie avait été projeté, Milord fit donc, comme nous l'avons dit, une visite à Lady Bellaston, qui lui développa tellement à fond le caractère de Weston qu'il vit clairement le tort dont il s'était rendu coupable en s'offensant le moins du monde de ses expressions, surtout ayant des vues honorables sur sa fille. Il découvrit alors la violence de son amour à Lady Bellaston, qui se chargea sur le champ de plaider sa cause et l'encouragea en lui donnant l'assurance certaine d'une réception plus favorable de la part de tous les chefs de la famille et du père lui-même, en le prenant dans un moment de sobriété et en l'instruisant alors de la nature des offres faites à sa fille. « Le seul obstacle, lui dit-elle, est ce jeune homme dont je vous ai parlé, et qui, bien qu'un gueux et un vagabond, a trouvé les moyens, je ne sais lesquels, de se procurer des vêtements tolérables et de passer pour un homme bien né. Or, comme pour l'amour de ma cousine, je me suis occupé de m'informer où demeurait ce drôle-là, j'ai heureusement découvert son logement. Milord, ajouta-t-elle, après le lui avoir indiqué, ce malheureux est trop vil pour que vous vous en vengiez personnellement. Ne vous serait-il pas possible d'imaginer quelque moyen de le faire racoler de force et de l'envoyer à bord d'un vaisseau? Ni la loi ni la conscience ne s'opposent à ce projet. Car le drôle, quoique bien mis, n'est, je vous le proteste, qu'un vagabond, et on n'en rencontre pas dans les rues de plus propre pour la presse. Quant à ce qui regarde la conscience, il est certain qu'il n'y a pas d'acte plus méritoire que d'empêcher une jeune personne de se perdre ainsi. Et quant au drôle lui-même, à moins qu'il ne réussisse auprès de ma cousine, ce dont le ciel nous préserve, ce serait probablement le moyen de lui sauver la potence, peut-être même de lui faire faire sa fortune d'une manière honnête. Lord Fellamar remercia sincèrement Milady de la part qu'elle avait la bonté de prendre à toute cette affaire, du succès de laquelle dépendait entièrement tout son bonheur futur. Il lui dit qu'il ne voyait pas pour le moment d'objection au projet de la presse, et qu'il s'occuperait des moyens de la mettre à exécution. Il lui recommanda alors, avec instance, de lui faire l'honneur de communiquer sans délai ses propositions à la famille, à laquelle, dit-il, il donnait carte blanche pour tous les arrangements de fortune qu'on exigerait de lui. Après avoir témoigné combien il était transporté et ravi des perfections de Sophie, il prit congé et sortit, mais non sans avoir reçu les plus fortes injonctions de prendre garde à Jones, et de ne pas perdre de temps pour le mettre dans un lieu sûr où il ne serait plus à portée de faire aucune tentative pour enlever la jeune personne. Aussitôt que Mrs. Weston eut pris possession de son logement, elle envoya une carte avec ses compliments à Lady Bellaston, qui ne l'eut pas plutôt reçue qu'avec l'impatience d'un amant, elle vola chez sa cousine, se réjouissant de cette occasion favorable qui s'offrait d'elle-même et qu'elle n'aurait osé espérer. Car elle était beaucoup plus charmée d'avoir à faire ses propositions à une femme de sens et qui connaissait le monde qu'à un homme qu'elle honorait du nom de Otanto, quoique cependant elle ne craignît point le danger de refus de sa part. Les deux dames s'étant réunies, et après s'être fait un petit nombre de civilités réciproques, parlèrent de l'affaire en question qui fut presque aussitôt conclue qu'entamée. Car Mrs. Weston n'eut pas plutôt entendu prononcer le nom de Lord Fellamar que ses joues se colorèrent du rouge le plus foncé. Et quand elle fut informée de la vivacité de sa passion, du sérieux et de la générosité de ses offres, elle déclara dans les termes les plus forts que sa satisfaction était complète. Dans le cours de leur conversation, elles parlèrent de Jones, et les deux cousines déplorèrent du ton le plus pathétique la malheureuse passion dont toutes deux convinrent que Sophie était atteinte pour lui. Mrs. Weston l'attribuait entièrement à la sotte conduite de son frère, et elle finit cependant par dire qu'elle avait la plus grande confiance dans le bon sens de sa nièce, qui, bien qu'elle ne voulût pas renoncer à son amour en faveur de Blifil, consentirait sans difficulté, disait-elle, à sacrifier une simple inclination aux propositions d'un lord beau et bien fait qui lui apportait à la fois un titre et une immense fortune. Car, ajouta-t-elle, je dois rendre à Sophie la justice d'avouer que ce Blifil est une espèce de magot fort laid, comme vous savez, Lady Bellaston, que sont tous les gentilshommes campagnards, et qu'il n'a véritablement pour lui que sa fortune. En ce cas, dit Lady Bellaston, je ne suis pas étonné du goût de ma cousine, car je vous assure que ce Jones est un garçon fort agréable. Il a de plus une vertu que les hommes prétendent être une grande recommandation auprès de nous. Que voulez-vous dire? Je vais sûrement vous faire rire, et moi-même j'en ai tellement que je ne sais pas si je pourrais. Cette vertu est un grand fond d'audace. Croiriez-vous qu'il a eu la hardiesse de me parler d'amour? Mais, si vous pouviez en douter, en voici une preuve suffisante. C'est son écriture, je vous l'atteste. Elle remit alors à sa cousine la lettre contenant la proposition de mariage. Si le lecteur a envie de la voir, il se souviendra qu'elle est dans le 15e livre de cette histoire. Sur ma parole, je n'ai jamais été plus étonné, dit Mrs. Weston. C'est en effet un chef-d'œuvre de hardiesse. Avec votre permission, ne pourrais-je faire usage de cette lettre? Je vous laisse la liberté la plus complète d'en faire tel usage qu'il vous plaira. Cependant, je ne voudrais pas qu'elle fût montrée à d'autres qu'à Miss Weston, et pas même à elle, à moins que les circonstances ne l'exigent. Bien, bien. Et comment traitâtes-vous le téméraire? Pas en mari, je vous le promets bien, ma chère. Je ne suis ni ne veux être mariée. Vous savez que j'en ai fait l'épreuve déjà une fois, et je trouve que cela est bien assez pour une femme raisonnable. Lady Bellaston pensa que cette lettre produirait certainement un effet défavorable à Jones dans le cœur de Sophie. Et elle fut enhardie à s'en dessaisir, tant par l'espérance qu'elle avait qu'il ne tarderait pas à être embarqué de force, que parce qu'elle était assurée du témoignage d'Honora, qui, après avoir été sondée par elle, lui avait donné des raisons suffisantes d'imaginer qu'elle était prête à certifier tout ce qu'elle voudrait. Les lecteurs s'étonneront peut-être que Lady Bellaston, qui dans le fond du cœur haïssait Sophie, pressa si ardemment un mariage qui était si fort à l'avantage de la jeune personne. Mais je prierai à mon tour ces lecteurs d'étudier avec soin la nature humaine. Ils trouveront écrit dans ce livre, presque à la dernière page, et en caractère à peine lisible, que les femmes, malgré la conduite souvent déplacée des mères, des tantes, etc., en affaires de mariage, regardent comme un si grand malheur de voir traverser leurs inclinations amoureuses qu'elles ne croient pouvoir pousser leur haine plus loin qu'en faisant éprouver de pareilles contrariétés. Ils y trouveront encore écrit, presque au même endroit, qu'une femme qui, une fois, a eu un homme en sa possession, fera, s'il le faut, plus de la moitié du chemin au-devant du diable pour empêcher toute autre femme de posséder ce même homme. S'il n'est pas content de ses raisons, j'avoue franchement que je ne vois pas d'autre motif pour expliquer la conduite de Milady, à moins que nous ne consentions à croire qu'elle eût été subornée par Lord Fellamar, ce que pour ma part je ne vois aucune raison de soupçonner. Voilà quelle était l'affaire dont Mrs. Weston se préparait à entretenir Sophie par quelques discours préliminaires sur la folie de l'amour et sur la sagesse qu'il y a à se prostituer légalement pour de l'argent, quand son frère et Blifil entrèrent brusquement chez elle. De là vint aussi ce froid accueil qu'elle fit à Blifil, et sur la cause duquel Weston se trompa comme à son ordinaire, mais qui donna à Blifil, beaucoup plus rusé que lui, un soupçon de la vérité.